Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. RFI vous informe et vous donne la parole. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie, comme tous les vendredis, de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour mon cher Juan Gomez et à tout de suite à la une de l'actualité internationale. Ce matin, le sommet de Paris sur la Syrie, la sécurité et la lutte contre le terrorisme était au cœur des débats hier. Alors que le pays est en pleine refonte depuis la chute de Bachar el-Assad, le nouveau régime d'Ahmed al-Shara peut notamment réduire le nombre de fonctionnaires dans le pays. À Munich, en Allemagne, début ce vendredi du sommet annuel sur la sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky y sera, le vice-président américain J.D. Vance aussi. Les Européens, eux, se sentent mis sur la touche. Et puis en RDC, la délégation des églises catholiques et protestantes poursuit sa tournée diplomatique après avoir rencontré le M23 à Goma et Paul Kagame à Kigali, direction l'Europe, vous l'entendrez. Et on débute donc par le sommet de Paris sur la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères, Assad Hassan el-Shebani, qui effectuait hier son premier voyage dans l'Union européenne pour le troisième sommet du genre depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités il y a 2 mois. La France qui a proposé aux dirigeants syriens de s'associer pour lutter contre le groupe État islamique, toujours actif sur le territoire. La sécurité, priorité absolue en Syrie, où le nouveau régime d'Ahmed al-Shara poursuit ses réformes et entend par ailleurs supprimer 1/3 des postes de la fonction publique. Un vaste programme lancé au nom de la lutte contre la corruption et le gaspillage. Certains services publics devraient être privatisés. De nombreux salariés ont déjà été suspendus ou remerciés dans le pays. Mais ils tentent de contester ces décisions. Reportage à Damas de Guilhem Delteil avec Nour Salam et les moyens techniques de Bertrand Eclair.
Elles sont 4 emmitouflées dans leur manteau d'hiver devant un centre administratif. Alors que les usagers entrent et sortent, elles restent devant. Ce centre était leur bureau, mais en janvier, leur contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé. Elles veulent raconter leur histoire, mais de manière anonyme.
Nous travaillons ici depuis une éternité et maintenant ils nous rejettent. On espère qu'ils vont nous reprendre, nous n'avons plus de revenus et nous avons un loyer à payer.
Toutes les 4 continuent de venir tous les matins dans l'espoir d'avoir une bonne nouvelle. Les coupes touchent tous les secteurs, des administrations locales au ministère, en passant par les entreprises publiques. Cette autre jeune femme, qui elle aussi souhaite rester anonyme, travaillait pour le fournisseur d'électricité. Elle, en contrat permanent, et ses collègues ont reçu l'arrêté annonçant leur suspension pour 3 mois par WhatsApp.
Dès le lendemain de la décision, les employés se sont retrouvés sur la place devant le siège et ont été rencontrer le directeur adjoint. Il nous a promis qu'il allait nous aider et créer un comité pour étudier chaque cas. Et ce comité va décider de ce qui arrivera aux employés.
Elle-même a été reçue par ce comité et attend désormais sa réponse. Elle veut croire qu'elle sera positive. Bertrand Eclair, Nour Salam, Guilhem Delteil, Damas, RFI.
Et puis toujours au Proche-Orient, le Hamas doit annoncer ce vendredi aux autorités israéliennes les noms des 3 otages qu'il doit libérer. Libération annoncée pour demain samedi contre des détenus palestiniens. 6e échange du genre depuis l'annonce de la trêve le 19 janvier dernier. Échange longtemps menacé, les 2 camps ayant fait craindre une reprise des combats. Et puis autre sommet, à Munich, cette fois-ci sommet annuel sur la sécurité et l'Union européenne qui se retrouve face à l'administration Trump et face à l'Ukraine. Hier au sommet des ministres de la défense de l'OTAN, le secrétaire américain Pete Hegseth a exhorté les Européens à s'engager plus militairement comme financièrement. Les Européens mis sur la touche dans le dossier ukrainien après le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine et qui n'ont pas vraiment affiché leur optimisme hier après la réunion de l'OTAN. Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
23 pays de l'OTAN sont aussi membres de l'Union européenne et pour eux, la perspective de négociation menée par Donald Trump n'est pas une bonne nouvelle malgré la promesse du ministre américain de la Défense qu'il y aura des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ils sont plusieurs à s'exprimer pour dénoncer les concessions promises à l'avance à Vladimir Poutine. C'est le cas de la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Elle était invitée à cette réunion des alliés. Elle dénonce une politique d'apaisement. Elle estime qu'un accord dans le dos de l'Europe ne fonctionnera pas. Elle rejoint le ministre allemand de la Défense, Oskar Pistorius, qui dit regretter la méthode Trump. Et plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le danger d'une paix qui forcerait l'Ukraine à capituler. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, leur a pour ainsi dire affirmé que le président des États-Unis était seul maître à bord des négociations à venir. Mais les Européens affirment qu'ils ne pourront être seuls à financer ou à fournir des troupes de maintien de la paix s'ils ne sont pas associés à la négociation. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et aujourd'hui, pas de Pitech Fête à Munich, c'est le vice-président américain J.D. Vance qui représentera les États-Unis. Toutes les options seront sur la table, y compris la pression militaire, a-t-il déclaré à propos des négociations sur l'Ukraine au Wall Street Journal. J.D. Vance qui doit notamment s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais pas de réunion tripartite États-Unis, Russie, Ukraine. En revanche, appelé de ses voeux par Donald Trump, Kiev s'y oppose et demande à minima au préalable une concertation avec les États-Unis et avec les partenaires européens sur les négociations de paix.
Kinshasa, 105 FM.
RFI 9h05 à Paris comme à Kinshasa, 10h05 à Goma et Bukavu. Sur le terrain militaire, les combats se poursuivent dans le sud Kivu. Entre l'armée congolaise et le M23, le front se situe toujours à quelques kilomètres de Calais centre, prise par le groupe armé, soutenu par le Rwanda. Le conflit dans l'est de la RDC, dont sont part les autorités religieuses, après avoir rencontré Corneille Nanga, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, vitrine civile du M23. La délégation des églises catholiques et protestantes du pays multiplie les contacts avec des échanges prévus en Europe dans les prochains jours. Patient Ligodi.
Sur le sol européen, plusieurs personnalités politiques doivent être rencontrées. Un entretien est prévu avec Moïse Katumbi dans la continuité des discussions déjà engagées. Avec les opposants Martin Fayulu et Délice Sanga à Kinshasa, des échanges sont également programmés avec des délégués de Joseph Kabila accusés par Félix Tshisekedi d'être derrière la FCM23. Les membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales et notre regroupement d'opposants au président congolais figurent aussi parmi leurs prochains interlocuteurs. Ce groupe sera conduit par l'ancien député et gouverneur Claudel André Loubaya. Ce sera l'occasion d'évoquer les mesures de décrispation du climat politique dans les buts de permettre notamment la libération des opposants en prison, dont Seth Kikuni, un des fondateurs de ce cadre de concertation. D'autres discussions sont attendues avec des dirigeants africains dans les prochains jours. À leur retour dans la capitale congolaise, une réunion d'évaluation est prévue pour analyser les résultats de ces différents contacts et déterminer la suite de leur démarche.
Patient Ligodi, cette délégation qui était de passage à Kigali et qui a rencontré le président rwandais Paul Kagame, comme l'a annoncé la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. 10 ouvriers sont morts au Pakistan, tués lors d'une attaque au Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays. Leur véhicule a été touché par un engin explosif, alors que les travailleurs quittaient une mine de charbon, attaque qui n'a pas été pour l'instant revendiquée, mais qui a été condamnée par le Premier ministre Shehbaz Sharif. Il a réaffirmé sa volonté d'éradiquer la menace terroriste dans le pays. Le Pakistan en proie à de nombreux attentats ces derniers mois. Et puis on va terminer au Mexique, le golfe du Mexique qui a été renommé Golfe d'Amérique sur Google Maps. Une modification qui n'est visible que depuis les États-Unis mais qui ne plaît pas du tout à la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum qui prévoit même de poursuivre Google en justice si le nom correct du golfe n'est pas modifié à Mexico. Correspondance de Marine Lebeg.
Du Mexique ou d'Amérique. Ce ne sont que des mots, mais la présidente mexicaine refuse de laisser passer ce qu'elle considère être une erreur de l'application Google Maps.
Google está equivocado.
Google se trompe. Le golfe du Mexique est constitué d'une partie qui est le plateau continental des États-Unis. L'autre partie, c'est le plateau continental où le Mexique exerce sa souveraineté. Et Cuba a le sien aussi. Le nom attribué par le gouvernement américain, et cela apparaît dans le décret signé, ne concerne que son propre plateau continental.
Selon Claudia Sheinbaum, le plateau continental américain n'est qu'une petite partie du golfe du Mexique. Et seulement cette superficie peut être renommée Golfe d'Amérique, à en croire le décret signé par Donald Trump. Le gouvernement mexicain en a fait la demande par lettre à Google, sans succès.
Ils nous ont répondu, mais on leur a répété qu'ils se trompent, qu'ils ne peuvent pas appeler tout le Golfe du Mexique Golfe d'Amérique. S'ils insistent, nous les poursuivrons en justice, parce qu'ils donnent un faux nom à notre plateau continental, donc au territoire mexicain.
D'autres, comme l'Encyclopédie britannique, ont décidé de garder le nom du Golfe du Mexique, en vigueur depuis plus de 400 ans. Marine Lebeg, Mexico, RFI.
Enfin en France, le dernier prix Goncourt Kamel Daoud est assigné en justice pour non-respect de la vie privée de Saada Arban, victime de la décennie noire des années 90 en Algérie. Elle accuse l'auteur franco-algérien d'avoir volé son histoire, devenue la trame de son roman Houri, prix Goncourt 2024. Première audience de procédure prévue le 7 mai prochain au tribunal judiciaire de Paris, RFI. Bientôt 9h10, ici c'est la fin du journal, le début d'appel sur l'actu avec Ron Gomez.
Et les auditeurs de RFI, merci Martin Guez, très bonne journée, reste avec nous dans 30 secondes, vous avez la parole. Ce sont vos questions à la rédaction.